Votre radio, notre climat.
Il est 18h, merci de nous retrouver pour votre radio, notre climat, avec le collectif des radios partenaires de la plateforme protestante des radios locales. Nous allons dans un instant retrouver le journal. Je vous propose de vous accompagner avec toute l'équipe jusqu'à 20h. Deux grands rendez-vous à découvrir. À 18h14, nous recevrons Anouar Gbibèche, président du Conseil français du culte musulman. Il répondra aux questions de Jean-Christophe Nava de Radio Parole de Vie à Saint-Malo, que vous pouvez écouter sur le 100.5. Et puis, à partir de 19h06, dossier du soir, avec ce soir Pauline Simon, qui est chargée de communication à la Fédération de l'entraide protestante. Elle sera interrogée par Chantal Crétaz et Claire Bernol pour les associations qui sont déjà engagées dans le développement durable et les économies d'énergie. Tout de suite, nous retrouvons le journal.
Le journal.
Bonsoir à tous. Karim Benzema, hors jeu, mis en examen dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Il n'est plus sélectionnable en équipe de France jusqu'à nouvel ordre. C'est la décision du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Benzema ne reviendra pas en bleu tant qu'il n'y aura pas de nouveaux éléments dans cette affaire. Il pourrait donc être privé d'Euro qui débute dans 6 mois jour pour jour. Mathieu Valbuena reste, lui, sélectionnable chez les Bleus. Concernant Michel Platini, le tribunal arbitral du sport rendra sa décision demain matin à 10h, il doit se prononcer sur la levée ou non de sa suspension. Michel Platini a été suspendu 90 jours par la FIFA qui lui reproche d'avoir reçu près de 2 millions d'euros en 2011 de la part de Sepp Blatter. Blatter qui sera entendu jeudi prochain par la justice interne de la FIFA, Platini le lendemain. Dans l'actualité également ce soir, Quick, bientôt racheté par Burger King. L'autorité de la concurrence autorise le rachat. L'opération devrait faire de Burger King le numéro 2 du marché de la restauration rapide en France derrière McDonald's. 4 hommes activement recherchés ce soir à Genève en Suisse. Il serait lié à la mouvance djihadiste et au groupe État islamique. Le niveau d'alerte a été relevé à Genève. Le siège des Nations Unies fait l'objet d'une surveillance renforcée, une mesure tout à fait exceptionnelle. De nouveaux cas de grippe aviaire détectés dans le sud-ouest, un dans le Gers, l'autre dans les Landes, ce qui porte à 12 le nombre de cas recensés en France depuis début novembre. Le ministère de l'Agriculture tente de rassurer et rappelle que le virus ne se transmet pas par la consommation de volailles. Une inquiétude qui grandit chez les consommateurs à quelques jours des fêtes de Noël. Plus que quelques heures pour trouver un accord. La COP21 se termine demain soir à Paris. Hier, un premier projet d'accord a été soumis aux 195 pays participants. Mais de nombreux points restent encore problématiques, notamment l'aide financière aux pays du Sud pour limiter le réchauffement climatique. Du handball avec la suite du mondial féminin au Danemark. Les Françaises affrontent la République démocratique du Congo. Ce soir, match à suivre à 18h15. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente soirée à tous.
18h03, merci d'être avec nous. On s'intéresse à la qualité de l'air maintenant avec Jean-Philippe Guettal de Radio Oméga à Montbéliard sur le 90.9. Mais il est avec nous, Jean-Philippe.
Oui.
Bonsoir.
La météo.
De l'air.
Oui, je suis avec vous. Bonsoir, Michel.
Bonsoir Jean-Philippe, vous nous emmenez dans quelle région de France?
Eh bien, nous allons aller à Agen, si vous le voulez bien, et retrouver Sylvanie de Hérac.
Oui, bonjour.
Bonjour Sylvanie. Alors, comment va l'air chez vous?
Écoutez, là, à Agen, on a un indice qui est bon. On a un indice de 4 sur une échelle de 1 à 10. Donc, la qualité de l'air est plutôt bonne. Après, si on fait un petit panorama de l'Aquitaine, à Bordeaux, par contre, la qualité de l'air est médiocre.
D'accord. Vous avez des prévisions?
Oui, tout à fait. Alors pour demain, ça devrait s'améliorer puisque les conditions météorologiques devraient s'améliorer, notamment pour Bordeaux où on prévoit malgré tout un indice moyen, mais c'est une amélioration. Et après, sur le reste de l'Aquitaine et notamment Agen, on aura des indices 4.
Alors,
indices bons.
D'accord. Je vous propose maintenant une question généraliste. Quels sont les risques liés aux particules fines pour la santé?
Alors, les particules, qu'on appelle aussi des poussières, vont avoir un degré d'impact sur la santé qui va être lié à leur taille. On va parler de particules en suspension, c'est des particules qui font 10 micromètres de diamètre. On va parler de particules fines, celles qui font moins de 2,5 microns. Et on va parler de particules ultra fines pour celles qui font moins de 0,1 microns. Et en fait, la dangerosité des particules va tenir à leur taille, puisqu'en fonction de leur diamètre, elles vont aller plus ou moins profondément dans l'appareil respiratoire, plus ou moins être retenues par le système de filtration. Et en fonction de leur entrée dans le corps, elles vont avoir un impact progressivement plus grand en rapport à leur taille. Plus leur taille est petite, plus l'impact sanitaire risque d'être grand. Donc globalement, les conséquences directes de cette pollution, ça va favoriser tout ce qui est lié à la toux, les maux de tête, les irritations des yeux, de la gorge. Ça peut favoriser les crises d'asthme aussi également, et puis favoriser les maladies cardiovasculaires. Et dans le cas les plus extrêmes, ça va aggraver certaines maladies existantes, voire être à l'origine de cancers, notamment poumons et vessies.
Merci beaucoup Sylvanie.
Je vous en prie.
Bonne soirée.
Merci pour votre émission et très bonne soirée à tous.
Votre radio, notre climat.
Que la moitié de nous, que la moitié de nous.
Mon frère, extrait de la comédie musicale Les Dix Commandements avec Daniel Lévy et Ahmed Mouissi. Il est tout juste 18h11. Nous retrouvons Redouane Esbanti pour une inspiration biblique.
Inspiration biblique.
Redouane, vous nous proposez quoi ce soir comme inspiration ?
Bonsoir Michel. Alors comme inspiration, est-ce que vous avez vu le film Invictus de Clint Eastwood, Michel ?
Ah oui, je l'ai vu. Il m'avait beaucoup plu d'ailleurs.
Donc vous vous souvenez que ce film raconte la réconciliation que Nelson Mandela a voulu mettre en œuvre. Et comme on vient juste de terminer une Coupe du Monde où justement on retrouve un petit peu cet élan, alors c'est ça qui m'a donné envie, c'est de voir la vie de cet homme qui a pourri pendant 27 ans, de 1962 à 1990, dans une prison du régime de l'apartheid. Et l'un de ses gardes du corps, dans le film d'ailleurs, s'étonne « Où va-t-il chercher la force de pardonner à ceux qui l'ont maintenu 27 ans en prison ?» Où ? Eh bien tout simplement dans sa foi chrétienne. Nelson Mandela est cet arbre qui a traversé non pas une, mais 27 années de sécheresse, apparemment perdu pour le monde entier. Son feuillage est resté vert, il porte un fruit de réconciliation entre noir et blanc. L'homme et l'arbre se ressemblent, à tel point que dans la Bible, l'arbre est devenu une sorte de métaphore du juste. Quel trait commun entre les deux, on peut se poser la question. L'homme, comme l'arbre, est une ligne verticale tendue entre ciel et terre. Tous deux sont solidement enracinés dans le sol. Ne dit-on pas que sans racines, l'homme est perdu ? Et en même temps, leur tête cherche à toucher les nuages. Le tronc humain, les branches de sa généalogie, d'ailleurs on dit la généalogie de quelqu'un, les fruits qu'il produit, jusqu'à l'écorce dont il s'entoure, l'être humain a appris les mots de l'arbre pour se décrire lui-même. La Torah compare les hommes aux arbres car, comme les humains, les arbres ont le pouvoir de grandir. C'est ce qu'écrivait un rabbin. Alors la Bible va pousser plus loin cette comparaison. « Béni soit l'homme, dit le prophète Jérémie, béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. » Le critère essentiel qui distingue le juste, l'arbre, du mondain, le buisson, est de savoir traverser la chaleur. Et même une année de sécheresse, sans arrêter de porter du fruit, ni d'avoir un feuillage vert. Une année de sécheresse, eh bien ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel âge de la vie. Après un coup dur, économique, familial, de santé, l'année de sécheresse peut être également une période de sécheresse spirituelle, affective, professionnelle, où apparemment rien ne se passe. Qu'est-ce qui permet de tenir dans ces fournaises-là ? L'arbre de Jérémie ou du psaume 1 nous le dit, il faut étendre ses racines dans le courant d'eau fraîche qui coule là, tout près, un peu plus bas, pour en aller chercher hors de soi les sources qui vont compenser ce que la pluie ne peut plus donner. S'appuyer sur Dieu d'abord, aller boire à sa parole, s'enraciner dans son amour, ne pas compter que sur soi ou sur l'aide des ordres des autres, comme dit Jérémie, mais compter sur Dieu d'abord, loin des calculs, des magouilles, des réseaux d'influence, des appuis humains, trop humains. J'aime les arbres, j'aime leur patience, leur stabilité, leur inlassable stratégie de survie, leur manière de s'enfuir pour résister à la durée, au froid, aux intempéries. De l'arbre de vie, de la Genèse à l'arbre de vie au milieu de la ville de l'Apocalypse, en passant par l'arbre de la croix, les hommes devraient davantage aimer et soigner les arbres pour s'en inspirer, pour leur ressembler. Alors, même une année de sécheresse ne le fera pas peur. Et comme le dit le psaume 1, jamais son feuillage ne meurt.
Votre radio, notre climat.
Merci Redouane pour cette inspiration biblique. Il est 18h15, nous sommes toujours en direct de la Maison du Protestantisme, ici à Paris, pour cette opération spéciale Notre Radio, Votre Climat, en lien avec les radios partenaires de la plateforme protestante des radios locales, avec Grille Ouverte en particulier à Alès, c'est le 88.2 à Phare FM, avec aux portes du Dauphiné sur le 107.0, fréquence protestante à Paris, Radio Semnose à Annecy, Radio Parole de Vie, c'est à Saint-Malo. Alors que notre invité arrive, je continue à vous présenter les radios qui nous écoutent aujourd'hui. C'est Radio Harmonie Cornouailles aussi, à Concarneau sur le 88.8. Radio Oméga à Montbéliard, FM Plus à Montpellier, Alliance Plus à Nîmes, Radio Albatros au Havre, Arc-en-Ciel à Strasbourg et Espoir FM sur le 93.1 à Agen. Voilà, je les ai toutes dites d'une traite, hein, sans me tromper, normalement. 18h17, c'est l'heure de retrouver Entre nous soit dit, c'est l'entrevue de la fin d'après-midi avec Anouark Bibesh, président du Conseil français du culte musulman.
Entre nous soit dit, l'entrevue de fin d'après-midi.
L'entrevue de fin d'après-midi qui sera menée par Jean-Christophe Nava de Radio Parole de Vie à Saint-Malo. Bonsoir Jean-Christophe.
Bonsoir Michel et bonsoir à toutes et à tous. Anouark Bibesh, bienvenue.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie.
Alors vous êtes le président du Conseil français du culte musulman depuis le mois de juin.
Tout à fait.
Donc vous êtes marocain.
D'origine marocaine.
D'origine marocaine. C'est important pour vous justement?
Ben, je suis d'abord français et je m'exprime en tant que citoyen français de confession musulmane. Mais effectivement j'ai la double nationalité franco-marocaine.
Vous êtes un ingénieur?
Tout à fait, ingénieur des ponts et chaussées de promotion 87, pour être précis.
Alors, vous avez participé à formuler la déclaration islamique sur la crise climatique. Hein, le CFCM, vous êtes le président, je l'ai dit, a proclamé ceci dans une conférence de presse qui a lieu le 28 octobre avec Nicolas Hulot et François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Alors, Anouark Bibesh, comment cette déclaration a-t-elle vu le jour, en fait?
La déclaration a été initialement élaborée le 17 et le 18 août à Istanbul. Il y a une soixantaine de dignitaires religieux musulmans, des savants, des personnalités engagées dans des pays musulmans et non musulmans, puisqu'il y avait également des participants qui venaient de Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada. Donc des personnalités qui venaient d'une vingtaine de pays. Et effectivement, ils se sont retrouvés sur un texte très fort pour sensibiliser les 5 ou 6 millions, 6 milliards pardon, de musulmans à travers la Terre entière sur les enjeux de la préservation de la planète et de la relation de l'homme à la nature. Bien sûr, dans la religion musulmane, il n'y a pas de clergé, on n'a pas de pape. Mais par contre, le fait qu'il y ait ces dignitaires musulmans qui se soient retrouvés et qu'ils aient trouvé un consensus sur un texte vraiment fondateur, un texte historique, c'est quelque chose de très très important. Et quand le Conseil français du culte musulman a examiné le contenu de cette déclaration, Nous avons dit qu'à la veille de la COP21, on ne pouvait que l'adopter. On l'a traduit en français, puisqu'on a eu la version anglaise et la version arabe. Nous l'avons traduite en français et nous avons dit que c'est l'occasion de la faire connaître à l'ensemble de nos compatriotes pour démontrer à la fois l'importance de la préservation de la nature dans la religion musulmane et aussi sensibiliser tous nos concitoyens de confession musulmane à participer à cette mobilisation générale pour la préservation de la planète.
Alors comment se traduit la vision de la nature, de l'environnement, la préservation de l'environnement dans l'islam, Dr Habib Bech?
Il y a deux notions qui sont très très importantes dans l'islam. La première chose, c'est que la nature, c'est une création de Dieu. Et donc, elle mérite respect et préservation au même titre que l'ensemble des êtres humains ou des animaux. Donc, c'est une préservation qui est sur la responsabilité de tous. Donc, elle mérite respect. Et la deuxième notion qui est très importante, c'est que dans l'islam, la nature a été créée pour être au service de l'homme. Et donc, ceci lui donne une responsabilité supplémentaire. Dans la conception musulmane, l'homme a reçu une régence de la part de Dieu sur terre. Et donc, cette régence lui donne des responsabilités immenses. Et il doit être le protecteur de la nature et non son destructeur. Et justement, dans cette déclaration islamique sur la crise climatique, il y a tout un préambule qui, justement, fait un état des lieux un peu de la dégradation de la planète par rapport à notamment le développement des gaz à effet de serre avec l'augmentation ou le réchauffement climatique d'une manière générale, mais aussi cette course effrénée vers la consommation, vers l'exploitation sans scrupule des ressources naturelles. Et donc, il y a une prise de conscience qu'il faut généraliser à l'ensemble des musulmans du monde entier et à l'ensemble de l'humanité tout court.
D'accord. Alors, en ce qui concerne les actions menées par les musulmans en France, est-ce que vous avez quelques exemples comme ça, peut-être d'associations ou d'initiatives qui sont prises pour préserver l'environnement?
Alors, par rapport à ça, il y a un proverbe marocain que j'aime bien, puisque je suis d'origine marocaine, et qui dit « Au lieu de se lamenter sur l'obscurité, allume une bougie ». Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que chacun, à travers son cercle de responsabilité, peut contribuer à la préservation de la planète par des actions au jour le jour, parfois des actions symboliques, mais c'est avec des coups d'eau qu'on fait les rivières, comme on dit. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont en train d'être, de rentrer dans les mœurs, dans les pratiques des musulmans, ne serait-ce que, par exemple, pour se préparer à la prière, il y a les ablutions, donc avec une consommation d'eau. Et donc, dans toutes les salles d'ablution dans les mosquées aujourd'hui, on trouve des pancartes ou des panneaux qui incitent les fidèles à préserver l'eau, à ne pas gaspiller cette ressource et cette denrée rare qu'est l'eau. Donc ça, c'est un exemple symbolique. Il y a d'autres expériences ou d'autres actions qui sont menées à plus grande échelle. Par exemple, des mosquées qui sont équipées d'ampoules à basse consommation, à base de LED. C'est une pratique qui est en train d'être généralisée. Il y a le concept de mosquée verte, entre guillemets, qui est en train de se développer, pas uniquement parce que le vert, c'est la couleur de l'islam, mais avec une dimension écologique qui est très, très forte. Et par rapport à ça, il y a deux exemples qui sont en train, là aussi, d'être suivis dans pas mal de nouveaux projets de construction de mosquées. Parfois, un chauffage au niveau de toute la mosquée basé sur des énergies renouvelables. Il y a un certain nombre de mosquées, même en région parisienne, qui le font, à Massy, à Vigneux, et puis en Normandie, en Alsace. Et il y a aussi aujourd'hui un certain nombre de mosquées qui, par exemple, dans leur conception architecturale, vous savez, il y a toujours une coupole qui est au-dessus de la grande salle de prière dans les mosquées. Et ces coupoles sont de plus en plus fabriquées avec des matières qui limitent l'émission de gaz à effet de serre. Et la mosquée de Massy, par exemple, on est un exemple, je dirais, concret. Et elle est en région parisienne, on peut la visiter. C'est une mosquée qui, justement, s'inscrit dans ce concept de mosquée verte. Donc, ce sont soit des actions symboliques au jour le jour qui peuvent être prises en charge par les fidèles, soit dans la conception même des mosquées, au niveau du chauffage, au niveau de l'électricité, au niveau même, des matériaux qui sont utilisés, une dimension écologique qui est présente.
Est-ce que vous sentez, à Dr Habib, les jeunes musulmans en France réceptifs à cette question de l'écologie, de la préservation de l'environnement, de la biodiversité, de cette maison commune, comme disait le pape François?
Les jeunes musulmans, ils sont, à l'instar de l'ensemble des jeunes, je crois qu'ils sont peut-être plus sensibles que les générations précédentes à cette question. Maintenant, il faut noter quand même que dans l'ensemble des pays musulmans, par exemple, il y a un déficit de prise de conscience à ce niveau-là. Et on peut prendre parfois quelques indicateurs qui peuvent être significatifs. Par exemple, il y a très peu de pays musulmans dans lesquels il y a des partis politiques verts ou à dimension écologique. Mais maintenant, ça, parce que peut-être que les besoins, c'est des pays qui, pour la plupart, qui sont en voie de développement, ils avaient peut-être d'autres priorités, d'autres chats fouettés, entre guillemets. Et donc, la notion de préservation de la nature n'était pas forcément leur souci premier. Mais on sent aujourd'hui qu'il y a une réelle prise de conscience dans ces sociétés. Et par exemple, je peux prendre mon pays d'origine, qui est le Maroc, dans lequel il y a deux ou trois partis politiques aujourd'hui ou des organisations de la société civile qui se sont engagées dans la préservation de l'environnement. Ça, c'est le premier exemple. Et deuxième exemple, aujourd'hui, il y a eu un développement de l'énergie solaire qui est en train de se mettre en place, ou de l'énergie à base d'éolienne aussi. Et donc le Maroc, puisqu'il n'a pas le pétrole, il est en train de développer d'autres sources d'énergie et qui sont, je dirais, écologiquement compatibles. Et d'ailleurs, la COP22, dans un an, se passera à Marrakech, au Maroc, et je pense que le Maroc est en train de prendre les devants là-dessus. Donc il y a une prise de conscience dans l'ensemble des pays musulmans, et donc la jeunesse musulmane, d'une manière générale, est plus sensible à cette question, parce que justement, c'est le futur, c'est l'avenir.
C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment une projection vers l'avenir.
Tout à fait.
Et alors, vous, Anne Guivet, j'imagine que vous avez suivi, comme beaucoup de Français, le déroulement de la COP21, les négociations. Quel regard vous portez, en général, sur les négociations, et en particulier sur ce qui vient d'être décidé, ce qui a été dégagé comme grande orientation jusqu'à présent? Parce qu'on attend demain pour savoir
avant de parler de la COP21 elle-même, de son déroulement, je pense qu'il y a toute la phase préparatoire qui a été très 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 importante, très intense. On a eu deux déclics au niveau de l'ensemble des religions, on va dire. Le premier, c'est au niveau de la conférence des responsables de culte en France, la CRCF, que préside actuellement François Claveroli. Et donc, il y a un an, on a commencé à penser justement à sensibiliser, à prendre la parole, à sensibiliser l'ensemble de nos fidèles, toutes religions confondues, sur la question de l'environnement. Et puis, il faut avouer aussi qu'il y a eu une rencontre, il y a tout juste un an, c'était en novembre de l'année dernière, avec Nicolas Hulot, dans une réunion où il a essayé de mobiliser l'ensemble des religions, l'ensemble des consciences. Et je pense que la conjugaison de ces deux facteurs a fait que les religions se sont beaucoup engagées sur la préparation de la COP21. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur cette conférence. D'après les dernières nouvelles ou informations du front, on va dire, les négociations ne sont pas totalement finalisées, et le pire comme le meilleur est toujours possible. Donc je pense qu'on est dans les derniers mètres, on est à 36 heures de la clôture, ou maintenant 24 heures, puisque je crois que c'est demain à 18 heures, que se termine la COP21 ou se clôt la COP21. Et c'est sur ces derniers mètres, ce dernier sprint, qu'il ne faut pas rater les enjeux et les objectifs sur lesquels nous nous sommes mobilisés depuis un an maintenant.
Alors Bibesh, est-ce qu'au Maroc, le pays que vous connaissez bien, d'où vous êtes originaire, vous nous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des espèces en voie de disparition ou qu'il faut protéger? Animal, est-ce que vous voyez vraiment des enjeux comme ça prioritaires?
Oui, tout à fait. Enfin, il y a notamment, le Maroc est connu comme étant un pays à très forte richesse au niveau de la mer, au niveau des poissons. Et aujourd'hui, je dirais, la pêche à outrance, avec une volonté d'industrialisation de cette pêche aujourd'hui, fait qu'il y a un certain nombre d'espèces qui sont en cours de disparition. Il y a aussi le réchauffement climatique qui fait que le Sahara est en train de s'étendre petit à petit. Et donc la température, on le voit dans l'ensemble des villes du Maroc et à la hausse. Et puis ça arrive jusqu'à Paris, puisqu'on a des températures en octobre et novembre, voire décembre, qui sont exceptionnelles à Paris et en France. Je pense que la notion de réchauffement climatique, on commence à la ressentir d'une manière de plus en plus, d'une manière de plus en plus significative. Et puis ceci génère un certain nombre de migrations de populations subsahariennes. Et aujourd'hui, le Maroc est un grand pays d'immigration, puisqu'il y a une immigration africaine très très forte qui s'est installée au Maroc. Avant, il y avait l'objectif d'aller en Europe, mais vu que les portes se ferment de plus en plus, Donc il y a une immigration subsaharienne et africaine qui s'installe au Maroc et se pose la question là aussi de la carte de séjour pour les Africains qui s'installent au Maroc. Donc ce flux migratoire ramène de nouvelles problématiques, de nouveaux défis et donc une politique générale du pays qui doit s'adapter à ces nouveaux défis. Alors maintenant, quand on parle à des gens qui se trouvent ou des habitants du Canada ou du pôle Nord, quand on parle de réchauffement climatique, ça peut que leur faire plaisir vu les températures qu'on trouve dans ces pays. Mais il faut plutôt peut-être parler de dérèglement climatique. Et ça, effectivement, c'est plus significatif avec ses impacts à la fois sur la vie d'une manière générale et sur les êtres humains en particulier.
Est-ce qu'il y a, Norvi Besh, au Maroc, un consensus au niveau du monde scientifique pour dire que ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par le CO2? Ou est-ce qu'on est sur l'autre thèse qui consiste à dire que c'est parce qu'il y a une augmentation de la température qu'il y a l'augmentation de l'effet de serre
Non, je pense que les climato-sceptiques sont de moins en moins nombreux. Et la bataille scientifique, je pense qu'elle a été gagnée pour démontrer effectivement la responsabilité de l'homme et du comportement de l'homme sur le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique. On ne peut pas uniquement lier ça à un phénomène indépendant et ou involontaire du comportement de chacun d'entre nous. Donc cette prise de conscience est là, elle est là. Par contre, maintenant, il faut la transformer ou la traduire en actes et en politiques contraignantes. Et c'est ce qu'on espère tous de la COP21.
Mais ce n'est pas un risque, finalement, pour l'homme de se croire un peu le maître du monde en se disant « c'est à cause de nous que la nature est détruite et ça va être grâce à nous qu'on va pouvoir continuer à vivre et l'avenir nous appartient ».
Moi, je trouve que c'est plutôt une opportunité qu'il y ait une prise de conscience de l'être humain de son impact ou l'impact de son comportement sur ses richesses naturelles et sur le devenir de la planète. Et il faut transformer cette opportunité-là pour que derrière, on fasse évoluer nos modes de fonctionnement et nos modes de vie, tout court.
Alors, Norvi Besh, je crois une dernière question. Est-ce que j'ai un petit peu le temps? Voilà, je vais vous la poser. Bon, vous vivez en France, vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, vous lisez les journaux. Quel est votre ressenti par rapport au climat, le regard qu'ont les Français sur l'islam en France?
Bon, le contexte, il n'est pas facile, effectivement. À la fois le contexte national, mais également le contexte international. Il y a beaucoup de violence, pour ne pas parler de terrorisme, qui est malheureusement parfois commis au nom de notre religion. Et les musulmans de France, dans leur quasi-totalité, rejettent fondamentalement ces actes de violence et ces actes de terrorisme. Et ils n'arrêtent pas de crier haut et fort, pas en notre nom. Ça ne peut pas être fait au nom de la religion musulmane. Bien sûr, les citoyens français de confession musulmane sont doublement touchés par ce qui se passe. Ils sont d'abord touchés en tant que citoyens français tout court. Ils font partie intégrante de la nation française. Ils partagent ses joies, ils partagent ses douleurs. Et donc, ils sont meurtris dans leur chair par ce qui est arrivé au mois de janvier dernier, le 7, le 8 et le 9 janvier, mais également la tragédie qui s'est passée le 13 novembre. Et ils sont également touchés, doublement touchés, parce que ceci est commis au nom de leur propre religion, alors qu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans ce type d'acte de terrorisme ou d'acte de barbarie. Et donc, par rapport à ça, il faut saluer la réaction des citoyens français de confession musulmane qui réagissent dignement et qui aujourd'hui s'expriment d'une manière, je dirais, la plus claire possible pour à la fois exprimer leur solidarité avec l'ensemble de la nation, mais également rejeter catégoriquement et clairement tout acte de terrorisme d'où qu'il vienne et sûrement pas au nom d'une quelconque religion ou d'une quelconque valeur humaine.
Merci beaucoup, Norvi Besh.
Merci.
Le journal. Votre radio, notre climat.
Il est 18h33. Merci d'être à l'écoute de ce programme. On a un petit souci de virgule, vous l'avez compris, c'est pas très grave, c'est pas tout de suite le journal, on le retrouvera tout à l'heure à 19h. Merci beaucoup en tout cas à Anouar Bibesh, président du Conseil français du culte musulman, d'être venu jusqu'à nous ici en direct à la Maison du protestantisme pour répondre aux questions de Jean-Christophe Nava de Radio Parole de Vie à Saint-Malo. Malo. La suite.
On dit en arabe, c'est ça? Shukran, merci.
Shukran, oui, shukran. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous accueillons Aude Millet-Lopez pour la revue de presse.
La revue de presse.
La revue de presse. Aude, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la presse aujourd'hui à propos de la COP? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'on en parle encore?
Alors Michel, au niveau des négociations, pour commencer, nous sommes donc à quelques heures de la fin de la COP21. Il est prévu que demain à 18h, un texte définitif soit adopté. Et autant dire que la presse sèche un peu aujourd'hui et reste dans l'attente fiévreuse de demain. Alors, une revue de presse tout en sourire, c'est le festival des jeux de mots en folie que je propose de partager avec vous aujourd'hui. On commence par le quotidien 20 minutes qui titre aujourd'hui son point d'actualité, deux points, ouvrez les guillemets, c'est l'heure de la COP-I. Bon, l'article nous rappelle un peu où nous en sommes en ce jeudi 10 décembre, à la veille justement de la remise du texte définitif. Le texte a été considérablement élagué, passant de 43 à 29 pages, selon Laurent Fabius, le président de la COP21. Trois points restent cependant en suspens. Tout d'abord, quels pays doivent contribuer à financer l'adaptation des États en développement au réchauffement climatique? À quelle date les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre seront révisés à la hausse? Et surtout, quel objectif vise-t-on? Trois options sont encore dans le texte. Une vers 2 degrés de réchauffement, une vers 1,5 degré et une de compromis. Alors, dans Libération, Laurent Fabius se félicite que ce nouveau brouillon fasse 29 pages au lieu de 43 et qu'il y ait une réduction des trois quarts du nombre des points entre crochets, ces fameux crochets évoqués partout dans la presse et qui représentent tout ce qui sont les incertitudes, ce qui n'a pas encore été tranché. Cela ne pardonne pas néanmoins cet autre titre « jeu de mots fatal », deux points, ouvrez les guillemets, Fabius, virgule, capitaine qui se bat avec des crochets. Bon, j'arrête de me moquer. On apprend encore plein de choses aujourd'hui dans la presse. Par exemple, Libération encore se penche sur les États insulaires dans un récit passionnant où on comprend que les premiers concernés par le réchauffement climatique, les petits États insulaires qui réclament que le plafond des 2 degrés soit abaissé à 1,5 degré, pèsent lourd dans les négociations au Bourget. Car chaque État vaut une voix. Alors, ils sont peu peuplés, souvent pauvres et isolés. Ils représentent moins de 1% de la population mondiale. Mais sur les 195 pays signataires, l'ONU identifie environ 40 petits États insulaires en développement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Aude, est-ce que la presse parle aussi des ONG ?
Oui, je voudrais vous parler de cet article surprenant dans Le Monde d'aujourd'hui intitulé « Climat des scientifiques démasqués ». Le journaliste revient sur comment, mardi au Bourget, l'organisation Greenpeace a dévoilé une série de correspondances montrant comment des industriels des combustibles fossiles peuvent s'offrir en toute discrétion les services de plusieurs universitaires pour fragiliser les négociations climatiques. Alors, nous avons voulu savoir si en amont de la conférence de Paris sur le climat, certains chercheurs du monde académique accepteraient d'être rémunérés pour rédiger et signer des rapports susceptibles de servir les intérêts d'industriels des fossiles, explique Ben Stewart, donc mardi, qui est directeur des médias à Greenpeace Royaume-Uni, et ce, en acceptant de cacher leur financement. Alors, l'article dévoile comment Greenpeace, donc cette ONG, a piégé deux scientifiques américains avec succès, et c'est assez effrayant.
Et pour finir, une petite touche positive, peut-être ?
Oui, un peu d'espoir, du positif et de l'espoir, car les articles et les autres personnalités à interviewer se projettent maintenant au-delà de la conférence, et en démontrent aussi les bienfaits. Et en voici trois exemples. Tout d'abord, Yep Sagnot, dans le portrait que lui consacre Claire Bernol, notre collègue, dans Réforme de cette semaine. Connu pour avoir lancé l'idée du jeûne, Yep Sagnot déclare « Le voyage se poursuit et on va continuer à construire un monde meilleur après Paris parce que c'est ce qu'il nous faut faire en tant que famille humaine. Dans les années qui viennent, je veux voir grandir mes enfants et qu'ils participent aussi à ce voyage-là. » On peut noter aussi dans Courrier international, dans l'édito d'hier, du 2 décembre, un édito intéressant d'Isabelle Autissier et d'Éric Scholl qui nous disent « Si le modèle actuel qui nous fait perpétuellement courir après l'avoir plutôt que l'être était tout simplement à bout de souffle, Répondre aux défis climatiques ne serait plus seulement une nécessité factuelle ou un impératif politique, mais une chance pour s'engager dans le monde de demain. Car au lendemain de la clôture de la COP21, qui donnera ou pas un signal politique ambitieux concernant le climat? Il y aura un 12 décembre, puis un 13 et un 14. Et ce monde que nous avons érigé collectivement ne doit son avenir ni à un passage de comète, ni au dessein de quelques divinités capricieuses, mais bien à la mobilisation collective des hommes. Le mot de la fin revient à Stefan Eichut, politiste et sociologue allemand, qui éclaire notre soirée dans un article du Huffington Post d'hier. Il nous dit « Fossiles, renouvelables, commerce mondial, voici trois questions parmi beaucoup d'autres que l'accord de Paris ne résoudra pas », nous dit-il. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Malgré les attaques terroristes et malgré l'état d'urgence décrété, la conférence de Paris aura aussi servi de point d'appui pour l'émergence d'un mouvement social et citoyen autour de la question climatique. La capacité de ce mouvement à maintenir la pression après la conférence, à recadrer les débats pour exiger la prise en compte des sujets tabous et à inventer des modes de vie alternatifs sera cruciale pour la suite. Et c'est sur cette phrase que je termine cette revue de presse d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Aude. C'était donc la revue de presse proposée par Aude Millet-Lopez du service communication de la Fédération protestante de France. Tout de suite, nous nous intéressons à une action locale, c'est-à-dire qu'il y a déjà du monde qui s'engage, qui fait des choses, et nous allons vers l'éco-quartier, un éco-quartier en Franche-Comté. C'est un sujet proposé par Radio Oméga. Il est 18h40, vous écoutez votre radio, Notre Climat.
Votre radio, Notre Climat.
Alors nous voici à Vieux-Charmont, dans le pays de Montbéliard, en Franche-Comté. Je suis avec Monsieur Dufour, qui est maire de Vieux-Charmont. Bonjour Monsieur Dufour.
Bonjour Monsieur.
Vous êtes maire de Vieux-Charmont depuis combien de temps?
Depuis 2008.
C'est une ville de combien d'habitants?
Alors en ce moment, on a à peu près 2800 habitants. Et on compte bien prospérer grâce à ces nouveaux quartiers qui sont implantés sur Vieux-Charmont.
Alors ne vous fiez pas à l'accent du Sud, nous sommes en Franche-Comté. Est-ce que vous pouvez nous situer la ville en France?
Alors Vieux-Charmont est bien sûr en Franche-Comté, au nord de Montbéliard, c'est-à-dire à peu près à 15 km de Belfort. On est dans le pays de Montbéliard agglomération, qui est une agglomération de 120 000 habitants et une aire urbaine de 300 000 avec Belfort.
Et cette aire urbaine, comment vous la qualifieriez en termes d'axe économique?
Alors c'est une des premières régions économiques industrielles de France, hein. Donc il y a bien sûr des grands groupes comme General Electric, Alstom, Peugeot évidemment sur le pays de Montbéliard et sur Belfort.
Alors Monsieur Dufour, si je suis venu vous voir cet après-midi, c'est pour que vous nous parliez de divers projets que vous avez dans la commune concernant l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous égrener différents projets et puis on parlera en particulier d'un?
Alors, donc, en 2008, on a eu déjà un premier projet qui était un quartier éco-responsable. C'est-à-dire que les gens ne faisaient pas de barrières autour de leur parcelle, ne plantaient pas de tuyas, s'engageaient à ne pas utiliser de pesticides. Donc, on avait fait un élevage de coccinelles pour contrer les pesticides. Et ce quartier est terminé maintenant. Ça s'appelle le quartier des Hauts-Bois. Et le deuxième projet, un très gros projet, qui est ce quartier, qui est un éco-quartier, qui a la labellisation nationale. On a déjà eu un premier vote national là-dessus et on attend le deuxième vote pour être labellisé complètement. Donc cet éco-quartier, bien sûr, ce sont des bâtiments BBC et même BBC+, et même il y aura un bâtiment à énergie positive.
Juste pour qu'on comprenne le contexte, on est dans ce quartier-là au moment où on vous parle. Qu'est-ce qu'il y avait ici il y a quelques années?
Alors c'est une friche industrielle puisqu'il y avait un entrepôt de Ravi. Alors Ravi c'était, puisque ça n'existe plus, des magasins qui étaient gérés par Peugeot pour alimenter tout le bassin d'habitation du pays de Montbéliard. Ces magasins Ravi ont disparu et à la place, sur cet emplacement, il y a Jeffco qui est le transporteur de Peugeot qui s'est installé pendant plusieurs années. En attendant la construction de Technoland, qui est une zone industrielle qui se trouve au nord aussi du pays de Montbéliard agglomération. Et donc Jeffco est parti s'installer à Technoland, à côté d'ici. Donc on a eu une friche industrielle qui a été dépolluée. On a d'abord rasé les bâtiments, évidemment, on a dépollué. Et sur cette friche industrielle, le pays de Montbéliard Agglomération et la ville de Vieux-Charmont ont décidé de créer un écoquartier, puisque c'est le premier écoquartier de PMA, pays de Montbéliard Agglomération, qui va être développé. Et c'est pour ça que c'est tout un ensemble de certifications qui ont eu lieu ici. On a par exemple enlevé, si je peux dire, 40% de la surface pour les consacrer aux espaces verts.
Qu'est-ce que ça inclut, un écoquartier ? Quels sont les différents buts ?
D'abord, on est dans la COP21 et donc dans l'énergie renouvelable. Donc on essaye de faire en sorte que le chauffage soit de la géothermie et puis avec un complément en pompe à chaleur. Et tous les bâtiments, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, en BBC, c'est-à-dire bâtiments basse consommation d'énergie. Les eaux aussi pluviales sont récupérées par des nous, vous voyez ici. Et puis donc on ne rejette pas dans le collecteur d'eau usée et d'eau pluviale les eaux de pluie.
Alors, il y a un tri des eaux.
Voilà. Il y a aussi des systèmes d'ordures ménagères qui sont enterrés, donc une récupération comme ça, avec tri, évidemment. Les rues n'existent pas dans cet écoquartier, ce sont des allées. D'ailleurs, la première allée a été inaugurée, ça s'appelle l'allée Nelson Mandela. Les voitures ne pourront pas circuler dans le sens où on traverserait cet écoquartier, ils viennent uniquement pour se garer dans leur parking ou garage. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de récupération enterrée des ordures ménagères et puis du verre, etc. Parce qu'il n'y aura pas de camions de poubelle qui traverseront cet écoquartier et ramassent au point de récupération ces ordures ménagères et les déchets.
Alors juste concrètement, ça veut dire les poubelles classiques qu'on a, on les met dans quoi ?
On les met dans ces points de récupération, ça s'appelle les points de R, récupération, qui seront tous enterrés dans cet écoquartier. Et les camions donc de ramassage vont circuler autour, mais pas dans l'écoquartier, et vont ramasser à différents endroits. Donc les gens seront obligés, bien sûr, de descendre leurs sacs poubelles et leurs tri à ces endroits-là. Donc il y a 6 lieux qui seront dévolus pour ce ramassage.
Ça veut dire que les habitants qui logeront dans ces bâtiments, ou logent déjà dans les premiers bâtiments, sont aussi sensibles à ça et ont fait une démarche pour habiter dans ces quartiers ?
Absolument. Donc on a fait une bonne dizaine de réunions publiques pour expliquer à ceux qui voulaient venir dans cet écoquartier comment ça allait fonctionner. Et puis les habitants seront invités à participer à l'animation de cet écoquartier, puisqu'il y aura des jardins partagés. Il y a des lieux de jeux, comme vous pouvez voir au milieu ici, partagés, ou des lieux de pique-nique aussi, on a envisagé ça, et puis des jardins partagés.
Il y a un côté environnemental et social alors dans ces quartiers ?
Oui, absolument. Donc non seulement environnemental, mais bien sûr il faut que les gens soient dans le vivre ensemble. D'ailleurs, la liste que j'ai menée s'appelait « Vivre ensemble et bâtir l'avenir ». On est complètement là-dedans.
Pas d'écologie sans effort ?
Absolument, ah oui, c'est sûr. On n'a pas d'écologie répressive, mais incitative, justement.
Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être voir concrètement des éléments de ce quartier ?
Oui, donc ça, ce sont les jeux partagés, comme je vous ai dit, un lieu convivial où les gens pourront venir avec leurs enfants pour jouer. Il y a un passage piétonnier, ce n'est pas une allée, ça, hein. C'est un passage piétonnier et vélo qui arrive donc à la fin de cet écoquartier pour descendre toujours en piste cyclable sur les écoles de Vieux-Charmont.
Il y a une réflexion globale sur la ville pour mettre à proximité tout ce qu'il faut pour ne pas se déplacer en voiture, ou le moins possible ?
Absolument. Donc c'est pour ça que j'ai envisagé de continuer, disons, la piste cyclable depuis cet écoquartier jusqu'aux écoles. Et puis ensuite, la piste qui rejoint Budapest, qui se trouve à proximité. C'est le Nantes-Budapest, la véloroute.
Donc si les gens de ce quartier veulent aller à Budapest, ils peuvent y aller en vélo?
Absolument. Là, ce sont les premiers bâtiments qui ont été construits par IDEA. Il y a donc 27 logements qui sont tous habités d'ailleurs maintenant. Et à côté, en préparation, on a signer le permis de construire, encore un bâtiment de 20 logements.
Ces bâtiments, est-ce qu'on peut les décrire pour nos auditeurs?
Ces bâtiments ont été construits par un architecte de Nancy. Il y a eu un concours d'architecture. Et vous pouvez regarder, c'est un bâtiment BBC avec les normes exigeantes.
Il y a des terrasses.
Il y a des balcons. Alors là, on ne les voit pas. Ils sont de l'autre côté, au premier étage. Parce que là, le dessous, c'est un parking. Et le premier étage est de plein pied avec les jardins qui sont de l'autre côté. Parce qu'ils ont des jardins personnels pour ceux qui sont au premier étage. Et ceux qui sont au deuxième et au troisième ont des balcons. L'orientation est calculée. On est là aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas trop de soleil. Mais on est plein sud.
On reste en Franche-Comté quand même. Hein. Cette partie qui est en face des bâtiments, qu'est-ce que ça va devenir?
Alors là, il y aura un bassin de rétention d'eau. Les nous, vous les voyez ici. Et puis, il y a des bâtiments et des maisons aussi de villes qui seront construites au bas de cet éco-quartier.
La préparation d'un projet comme celui-ci, c'est combien de temps?
On a commencé à étudier ça avec PMA depuis 2009. Et puis, les premiers bâtiments sont sortis l'année dernière.
PMA, Pays de Montbéliard, agglomération.
Hein.
Est-ce que d'autres maires ailleurs dans le Pays de Montbéliard, en Franche-Comté, vous ont contacté au sujet de ce quartier?
Dans le Pays de Montbéliard, agglomération, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier éco-quartier, un éco-quartier pilote. Et les autres villes de PMA, en particulier Montbéliard et Sochaux, et Audincourt, ont des projets d'éco-quartier comme à Vieux-Charmont.
Le coût d'un quartier comme ça, c'est beaucoup?
C'est assez cher, oui. Effectivement, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on abandonne 40% de la surface aux espaces verts, donc ça fait moins de promoteurs qui s'installent, évidemment. Et comme on ne veut pas des gros bâtiments, le maximum c'est 3 étages, ça s'appelle un R plus 2 en plus, rez-de-chaussée 2 étages, il est évident que on est obligé, pour boucler le budget, de mettre la main à la poche, pour on peut dire, de l'argent public, puisque PMA a participé fortement à l'implantation de cet éco-quartier.
Alors, on se dirige maintenant vers les bâtiments. On va faire le tour des bâtiments pour voir ce qui s'y passe. Vous nous avez parlé tout à l'heure de jardins. On va voir ces fameux jardins.
Les jardins qui sont maintenant déjà utilisés. Alors, ils ne sont pas encore en potager, puisqu'ils sont rentrés début d'automne, disons, les habitants. Donc, il faudra attendre un petit peu avant qu'ils puissent planter.
Donc autour du bâtiment, aucun véhicule visible, puisque tout est sous le bâtiment, les voitures sont sous le bâtiment.
Oui, alors donc, voilà, ils ont un petit rez-de-jardin, chacun, les autres ont un balcon.
On voit des portes-fenêtres très hautes,
oui.
Qui captent la
le soleil, chaleur, bien sûr, oui, puisque là on est plein sud. Donc s'il y avait un peu de soleil, on verrait qu'il y a un bon ensoleillement de ce côté-là.
Et à la fois, quand le soleil est haut, on a quelque chose qui abrite du soleil, finalement, avec le balcon du dessus.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la fin de l'allée, la première allée que l'on a faite, l'allée Nelson Mandela, qui permet d'arriver à ces 3 bâtiments, et l'autre qui va être construit au bout.
D'accord.
Donc, il va y avoir, à la fin de l'année 2016, 47 logements occupés. Parce que quand on a fait la distribution de ces logements, pour les 27 logements ici, à IDEA, il y avait plus de 60 demandes.
D'accord, donc ça ne rebute pas les gens, le fait qu'il y ait quelques contraintes liées à l'écologie?
Oh non, je pense pas, au contraire. Ça leur permet de vivre dans un environnement agréable. Parce que pour l'instant, on ne voit pas trop la végétation, mais tout va être en herbe ou en bâtiment, hein. Avec beaucoup d'herbes.
C'est important dans une région industrielle de se tourner vers la protection de l'environnement?
Évidemment, quand on sort de l'usine, on préfère être dans un lieu qui est végétalisé plutôt qu'urbanisé. Donc on est tout de même dans le cadre urbain, puisque Montbéliard est à 1 km hein, à peine. Et là, vous pouvez voir le nom de ces bâtiments qui s'appellent Arbora Domus, les bâtiments dans les arbres. Et j'ai pas donné le nom de cet éco-quartier, ça s'appelle Les Séquanes. Parce que les Séquanes sont le peuple gaulois qui était en Franche-Comté, et en particulier sur le pays de Montbéliard. Et ce sont eux qui ont inventé peut-être un grand mot, mais la saucisse de Montbéliard. Et elle était une saucisse fumée, et elle était transportée jusqu'à Rome, inconnue à cette époque-là, de l'Antiquité. Donc on a appelé ce quartier les Séquanes.
Alors on espère que ce quartier fera des émules jusqu'à Rome.
Pourquoi pas ?
En conclusion, monsieur le maire, qu'est-ce que vous pourriez dire pour encourager et nos concitoyens à aller vers l'effort pour améliorer notre environnement et à la fois vers d'autres maires de France peut-être qui nous écoutent pour encourager à rentrer dans ce genre de projet ?
Eh bien, il faut à notre époque économiser l'énergie à tout prix. Donc il est nécessaire de créer des bâtiments basse consommation et même à énergie positive parce que c'est un bien commun. Et puis si on diminue les énergies fossiles, on va diminuer aussi les gaz à effet de serre. Et donc on fait tout ce qu'il faut pour que notre planète puisse vivre.
Merci beaucoup monsieur Dufour. Je rappelle que nous étions à Vieux-Charmont, une petite ville de Franche-Comté vers Montbéliard, entre Montbéliard et Belfort. Et que même en ayant une ville de un peu plus de 2000 habitants, on peut faire des grands projets, notamment des projets pour l'environnement et la planète. Merci beaucoup, monsieur Dufour.
Merci bien à vous.
Votre radio, notre climat.
18h55, c'était l'action locale proposée par Radio Oméga. Merci d'être avec nous. Un peu de musique tout de suite avec le groupe Héritage.
Résonnait usette, il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin. Chantons tous son avènement.
Inspiration biblique. Chers amis, à l'heure où nous nous interrogeons sur l'avenir de notre petite planète, à l'heure où des scientifiques nous font espérer une potentielle vie éternelle, nous vous invitons à Athènes, au 1er siècle après Jésus-Christ. La ville d'Athènes est alors un pôle culturel important, un centre de connaissances scientifiques, politiques, religieux, une époque où la philosophie, la religion, l'éducation sont très liées. Et dans ce cadre, les Grecs d'Athènes ont pour activité favorite d'écouter tout ce que le monde a à dire sur tout. Quant à leur quête religieuse, elle les amène à concevoir même l'existence d'un dieu inconnu pour lequel ils ont bâti un autel. Alors que l'apôtre Paul se tient sur Aéropage, une petite colline située près de l'Acropole, il peut voir la ville avec toutes ses idoles. « Je vais vous parler de ce dieu inconnu, dit-il aux Athéniens. Ce dieu créateur du ciel et de la terre n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Cette phrase nous parle encore 2000 ans après, à l'heure où l'on mise sur les technologies pour prolonger indéfiniment la vie. Et toujours dans ce chapitre 17 des Actes des Apôtres, que l'on trouve dans le Nouveau Testament, il écrit « Ce Dieu créateur est celui qui apporte la vie de tout ce qu'il y a de visible et d'invisible, d'universel et de particulier. Cette vie, elle est dynamique. L'homme n'est pas un être statique, une chose à manipuler, à assujettir au matériel. Et cet élan qui apporte explosion, c'est une force créative et créatrice d'un Dieu qui transcende la matière. Alors ce Dieu inconnu, ne serait-il pas le facteur ignoré de nous qui détermine s'il y a vie ou non dans la matière qui nous entoure? N'est-ce pas le facteur inconnu des informations génétiques que nous manipulons aujourd'hui sans savoir comment les programmer? Car s'il y a information encodée, qui en est l'auteur? Et je voudrais conclure par une petite réflexion du pasteur Philippe Zeizig. On a bien raison de dire « on fait aujourd'hui des choses extraordinaires, de très belles choses ». Mais l'instant d'après, on s'écrie « mais c'est affreux, on n'a jamais vu de choses pareilles, pauvre monde ». Et puis il y a des choses qui ne dépendent pas seulement de la technique. Rendre meilleure la vie, s'aider, s'aimer, et ces choses nous réussissent moins bien, c'est qu'il y faut des forces divines. Et c'est là que de donner à Dieu son congé, sous prétexte qu'on sait faire des tunnels sans lui, nous a mis dans un autre tunnel dont on ne voit pas la fin.
C'était l'inspiration biblique de Daniel Giraud de Radio Intervalle à Alès. Merci d'être à l'écoute de nos programmes.